Europe Soir Weekend, Céline Géraud.
Allez, on est de retour en direct dans le studio d'Europe 1 jusqu'à 20h où on décrypte l'actualité et sur tous les fronts. Et ce soir, j'avais très envie de vous amener dans l'univers des crypto-monnaies. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis mercredi, il est possible pour les clients du centre commercial parisien Beaugrenelle de payer leurs courses en crypto-monnaie via une carte d'achat. C'est une première en France et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les utilisateurs de crypto-monnaie, ça veut dire beaucoup. Et pour en parler, j'accueille ce soir Philippe Erlin, économiste, chercheur en finance et spécialiste des questions monétaires. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous avez récemment publié un guide pratique Bitcoin, comprendre et investir aux éditions Erol. Bonjour, bonsoir Manuel Valente, directeur scientifique chez CoinHouse, la première crypto-banque européenne.
Bonsoir.
Bienvenue à bord. Et Damien Patureau, le fondateur de l'application Lizzy, qui permet justement de convertir ses crypto-monnaies en bons d'achat. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Alors pour planter le décor, je commence par un indicateur. C'est une étude réalisée en janvier par un cabinet de conseil qui révèle que 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Parmi eux, les jeunes sont surreprésentés. 12% des moins de 35 ans ont déjà acheté des cryptos. Mais le plus simple, finalement, pour les auditeurs qui entendent parler de ce phénomène et qui ne maîtrisent pas tout, les codes, comme vous, nous allons peut-être déjà leur expliquer en quelques mots ce qu'est une crypto-monnaie. Philippe Erlin ?
Oui, très simplement, le Bitcoin, pour prendre la première, la plus importante, c'est une monnaie qui est décentralisée. L'euro, c'est une monnaie qui est centralisée. C'est la Banque Centrale Européenne qui décide du taux d'intérêt, qui décide éventuellement de faire de la planche à billets, comme on l'a vu récemment. C'est aussi pour ça qu'on a un peu d'inflation. Alors que le Bitcoin, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut changer la règle de départ qui est qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. On est à 19 millions aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des règles qui sont fixées et on ne peut pas couper Bitcoin. Il n'est pas sur un serveur, il est dupliqué sur des milliers de serveurs. Voilà. Donc c'est ça qui lui donne son indépendance et sa force aussi.
Et une blockchain ?
Alors la blockchain, c'est justement ce qui permet aux transactions de circuler. Voilà.
D'accord, très bien, c'est beaucoup plus clair. Revenons maintenant à l'actualité. Donc, il est désormais possible de payer, je le disais, ses achats en crypto-monnaie dans un centre commercial français, dans le 15e arrondissement, Beaugrenelle, pour ne pas le citer. C'est une petite révolution. Et dans l'univers des transactions monétaires, Damien Patureau, vous êtes le fondateur de cette application qui permet ses achats. Comment ça marche ?
C'est assez simple. Pour un utilisateur, il suffit de télécharger le wallet, faire les quelques vérifications d'identité obligatoires, évidemment, créditer son wallet soit en achetant directement son premier Bitcoin, soit en transférant d'un wallet à un autre des crypto-assets et de venir directement sur notre pop-up pour acheter une carte cadeau via l'opération que nous avons aujourd'hui avec Beaugrenelle.
Donc pour faire simple, on télécharge cette carte en Bitcoin qui sont convertis en euros et on paye finalement en euros.
Alors, ce n'est pas exactement ça. Finalement, l'utilisateur qui a déjà des cryptos va venir payer avec l'asset de son choix. Si on prend l'exemple tout à l'heure du Bitcoin,
on va peut-être le simplifier.
La crypto de son choix,
voilà,
tout simplement. Donc on va prendre l'exemple de Bitcoin. Je viens, je saisis dans l'application le montant, 20 euros. On va faire une conversion automatique avec Bitcoin, tout simplement. On valide la transaction. On va aller derrière faire une carte cadeau abondée de 10%, tout simplement.
Et alors, les premiers retours, justement, vous avez lancé ça mercredi. Est-ce que vous avez un chiffre ? Combien de clients ont déjà procédé à cette transaction en magasin ?
Alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un engouement absolument phénoménal, notamment du côté B2B, les marques du centre commercial. On a été très approchés, finalement, puisqu'il y a une vraie demande au niveau de cette acceptation-là, au niveau du paiement en crypto-monnaie. Donc, très, très positif. On a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter aussi pour avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est aussi éducatif et c'est la volonté qu'on a aussi dans ce côté démocratisation des cryptos, tout simplement.
Manuel Valente, est-ce que cette innovation qui permet donc aux crypto-monnaies de rentrer un peu plus dans nos vies vous inspire ?
Bien sûr, on est toujours extrêmement intéressé par toutes les nouvelles innovations qui sortent sur le marché et qui permettent au plus grand nombre d'accéder à ce marché, à la fois sur tout ce qui est moyen de paiement, comme on le voit aujourd'hui, mais également sur tout ce qui est investissement. Donc, tout est bon à prendre pour démocratiser l'usage des crypto-monnaies au quotidien.
Et vous avez l'impression que les lignes bougent en ce moment ?
Très clairement. Alors que jusqu'en 2017-2018, le marché des crypto-actifs, ça restait quelque chose de relativement confidentiel avec un certain nombre de gens qui étaient des spécialistes de la question et qui s'amusaient à s'envoyer des bitcoins les uns aux autres. Aujourd'hui, ça a non seulement atteint le monde des institutionnels de la bourse, notamment américaine, mais aussi, on le voit, tout le quotidien de chacun est en train d'être bouleversé.
Philippe Erlin, est-ce que la blockchain dont vous parliez tout à l'heure sera bientôt une composante incontournable de l'écosystème financier et retail, c'est-à-dire de toutes les activités de commerce de détail ?
Oui, c'est-à-dire ça va être utilisé. Ce qu'on constate dans les pays émergents, il y a une utilisation du Bitcoin quand ils font face à une inflation ou un contrôle d'échange ou que la monnaie est très instable. Donc ça se développe comme monnaie de transaction. C'est-à-dire que le Bitcoin devient une planche de salut par rapport à des monnaies qui connaissent des problèmes. En Europe, on n'a pas ce problème-là. On a de l'inflation, mais on a une monnaie qui est quand même encore stable. Donc en Europe, c'est plutôt un placement, le Bitcoin.
Alors, voilà. Mais Salvador dit, ou de...
Voilà, Salvador, Argentine ouais. ou Turquie, ouais. voilà. voilà. En Europe, aux États-Unis, ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt un placement. C'est-à-dire que les gens, par rapport au Bitcoin, c'est plutôt comme placement financier plutôt que monnaie de transaction. Mais ça commence à se développer, justement, on le voit avec le centre Beaugrenelle. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Voilà.
Ouais, vous avez l'impression qu'il y a une appétence pour cette crypto-monnaie qui concerne surtout les moins de 35 ans, finalement. Il y a encore une frilosité de la part des adultes, là j'allais dire les jeunes adultes, ils vont tous, ou alors sont curieux, mais il y a encore un blocage.
Voilà, c'est beaucoup une affaire de génération, et je pense pour la nouvelle génération, c'est aussi le fait de payer, c'est aussi une fait de s'approprier la monnaie. Parce que le fait d'acheter les bitcoins, de les mettre de côté, de les oublier, bon, ça peut se faire, mais le fait de l'utiliser concrètement, mais si c'est des montants qui sont symboliques, bah c'est une façon de comprendre comment ça marche. C'est une façon de fonctionner autrement qu'avec l'euro, et je pense que les nouvelles générations, elles sont attachées à ça, voilà.
Ouais, Damien Patureau, vous avez fait ce constat aussi ?
Oui, tout à fait. Alors, en effet, on était sur les...
Fondateur d'application Lizzy, je le rappelle, qui permet justement d'acheter cette carte d'achat pour payer en crypto-monnaie.
Tout à fait. Et c'est marrant parce qu'en effet, on était sur l'expérience terrain, pour le coup, sur Beaugrenelle, sur ces quelques jours d'exploitation qu'on a eus. C'est qu'en effet, on avait une cible qu'on pensait être plutôt très jeune. Mais la petite histoire, c'est que pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu un papy de 80 ans qui est venu me voir pour me demander comment je peux acheter un bitcoin. Et ça, je trouve que c'est une super histoire. Il avait son adresse de wallet, il avait déjà tout. Donc non, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est en marche aujourd'hui.
Il a acheté un bitcoin ou pas ?
Alors, il pensait qu'on était un bureau de change. Donc bon, forcément, je n'ai pas pu l'accompagner jusqu'au bout. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de ça.
Alors, il y a effectivement beaucoup de volatilité, on l'a dit, de risques aussi. Hein. Le marché des cryptos a été évalué à près de 3 000 milliards de dollars à son sommet en novembre. Mais il y a eu un crypto crash en avril. Alors, combien vaut-il aujourd'hui, Manuel Valente ?
Aujourd'hui, le Bitcoin est aux alentours de 30 000 dollars. Il a effectivement beaucoup baissé au plus fort. C'est-à-dire en novembre dernier, il était à 69 000 dollars. Et vous avez raison, c'est un marché qui a toujours été extrêmement volatile, avec des hausses très très brutales et des baisses tout aussi brutales. Bon, bah, c'est quelque chose dont on prend l'habitude, mais ça représente également quelque chose d'intéressant parce que c'est là où on a des opportunités éventuelles pour pouvoir faire des investissements intéressants.
Et vos clients, alors quel est le profil type d'un client de la CoinHouse, qui est donc la première banque européenne de crypto-monnaie ?
Bah, exactement comme l'exemple qui vient d'être cité, on a des gens de toutes les générations, de 18 jusqu'à 80 ans. On a surtout un public qui est majoritairement masculin, qui reste encore majoritairement masculin malheureusement, mais qui se démocratise. Et on a vraiment des gens de toutes les couches sociales et de tous les âges qui s'intéressent au monde des cryptoactifs. Et avec un point commun qui est relativement fréquent, c'est le point commun de gens qui se disent qu'ils veulent se réapproprier la façon dont ils veulent investir. Contrairement à des investissements classiques auprès d'une banque qui, elle, aura toujours tendance à choisir des produits types pour vous faire investir. Là, vous avez vraiment le choix de dans quoi vous allez mettre votre capital.
21 crypto-monnaies différentes, c'est ça, Philippe Erlin, aujourd'hui des crypto-monnaies, pardon.
Non, c'est limité à 21 millions de bitcoins. Mais le nombre de crypto-monnaies est énorme, il y a des opportunités énormes. Maintenant, bon, les principales, Bitcoin et Ethereum, sont vraiment les principales et c'est celles qu'il faut, je dirais, privilégier si on investit.
Parce que c'est les plus anciennes, c'est celles qui ont le plus, qui sont là depuis longtemps.
Voilà, et puis c'est celles qui ont su faire la preuve de leur utilité, de leur efficacité. C'est-à-dire le Bitcoin, on sait que c'est un très bon moyen de placement. Alors, tout à l'heure, on parlait de volatilité. C'est volatile, mais quand on prend sur la longue durée, ça monte. Hein. Et moi, je dis, si vous investissez dans Bitcoin, prenez un horizon de placement de 3-4 ans minimum. Et là, serez gagnant. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Si vous investissez pour 6 mois, vous ferez peut-être gagnant, vous allez peut-être perdre beaucoup aussi. Donc c'est risqué. Mais mettez de l'argent dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin sur 3-4 ans. Et là, sur le Bitcoin et Ethereum, vous serez gagnant. Il n'y a pas de problème. Donc il faut comprendre ça. À chaque fois qu'on investit, il faut comprendre le produit dans lequel on investit. Ça, c'est fondamental. Donc le Bitcoin, il faut passer un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Et après, on va se rendre compte que c'est un placement vraiment intéressant. Surtout dans le cadre actuel où l'inflation revient. On le voit hein, en Europe, aux États-Unis. Bah le Bitcoin, lui, il n'y aura jamais de planche à billets. Hein. Ce sera 21 millions, point barre, ça ne bougera pas. Donc, c'est un produit anti-inflationniste. Donc, moi, je dis à long terme, c'est une bonne façon de protéger son épargne. Et c'est accessible à tout le monde, parce que l'immobilier aussi, ça permet de se protéger contre la hausse des prix. L'immobilier monte. Mais pour acheter un bien immobilier, il faut mettre une somme au départ assez importante et c'est pas accessible à tout le monde. Alors que Bitcoin, n'importe qui, on peut mettre 1 000 euros en Bitcoin et c'est bon, quoi, voilà.
Et les gens qui achètent justement cette carte d'achat, là, la première en France, on le rappelle, dans un centre commercial, ils ont justement l'intention justement de faire un placement, de s'intéresser, ou c'est juste un achat coup de cœur pour voir, jouer pour
non,
voir.
Non, il y a un peu tous les profils. Il y a le crypto-enthousiaste qui lui a déjà des cryptos et pour le coup veut un nouvel usage. Et du coup, on lui donne accès à un nouvel usage. Il y a celui qui est un peu indécis, qui a entendu parler de ce truc qui s'appelle Bitcoin, etc., avec toutes ces histoires qu'on entend, et qui, lui, voudrait rentrer aussi sur ce marché-là pour faire de l'investissement, etc. Et après, on a l'habitude d'en parler, mais nous, notre troisième étage, c'est Madame Michu, c'est vraiment la dernière. Et ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que notre victoire à nous, elle sera quand Madame Michu pourra acheter son pain au chocolat avec une fraction de Satoshi, par exemple.
Voilà. Satoshi, c'est un...
C'est une fraction de Bitcoin. Voilà.
Okay. Super. Bitcoin, je crois qu'on va la reprendre, la phrase. Madame Michu a-t-elle utilisé une fraction de Satoshi
Exactement.
Pour acheter sa baguette de pain? On reste ensemble, évidemment, jusqu'à 20h. On parle dans quelques instants, justement, de cette crypto-monnaie, de cet univers pas si fermé que ça, qui s'ouvre peu à peu. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Céline Géraud.
Allez, jusqu'à 20h, on parle des crypto-monnaies avec Damien Patureau, fondateur de l'application Lizzy, qui permet justement d'acheter depuis mercredi, eh bien, faire ses courses avec une carte d'achat. On est avec Manuel Valente, fondateur de la banque CoinHouse, première banque européenne de crypto-monnaies, et Philippe Erlin, l'économiste spécialiste des questions monétaires. Tiens, je vais vous faire une référence à Christine Lagarde, qui effectivement s'est exprimée cette semaine à propos justement des crypto-monnaies. Elle dit qu'ils ne sont basés sur rien, ils se rattachent à aucun actif sous-jacent qui pourrait apporter de la sécurité. Que répondez-vous à ça, Philippe?
C'est un mensonge. Le problème, c'est que ça montre une mauvaise compréhension du Bitcoin. Et ça, c'est quand même gênant pour quand on est la directrice de la Banque Centrale Européenne. Le Bitcoin a une valeur intrinsèque. C'est un système de paiement qui fonctionne depuis le 3 janvier 2009, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, pour des frais de transaction qui sont extrêmement bas. Vous voyez de l'argent à l'autre bout du monde, instantanément, avec des frais très faibles. Il n'y a aucun autre système de paiement qui permet ça. Et puis, il y a aussi le fait, on a parlé de la blockchain tout à l'heure. Donc, la blockchain, ça sert à faire les virements. On peut aussi construire des services financiers dessus. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer là-dessus. Et je termine, la troisième chose, comme je disais tout à l'heure, c'est limité à 21 millions. Donc, c'est une ressource rare. Donc, ça confère de la valeur au Bitcoin. Il faut bien comprendre ça.
Mais là, on parle de sécurité, en fait. C'était surtout sur la sécurité, en fait.
Ah, mais la sécurité, il y a aussi la sécurité, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de faux bitcoins qui sont rentrés dans le système bitcoin. Alors, faux euros, ça circule, on sait. Mais il faudrait retourner à la question sur quoi et qu'est-ce qui fonde la valeur de l'euro.
Il y a le projet d'euro numérique que vous n'ignorez pas, porté justement par la Banque Centrale Européenne. Cette monnaie numérique, elle est attendue en 2025 si les premières expérimentations sont concluantes. Et il y aura un prototype en 2023 pour la tester. Est-ce que les deux monnaies peuvent cohabiter d'ailleurs, l'euro numérique et cette crypto-monnaie, Manuel Valente?
Absolument. On n'aurait aucun problème à fonctionner en parallèle avec du Bitcoin et avec de l'euro, dans la mesure où le jour où on aura des euros numériques dans la poche, et ben ces euros ils vaudront la même valeur qu'un euro classique. Et donc, ils seront dits stables. On parle souvent, notamment dans le monde des cryptoactifs, de stablecoin pour des crypto-monnaies qui ont un cours stable par rapport à un sous-jacent qui peut être de l'euro, du dollar ou autre. Alors que le Bitcoin, lui, il est volatile. Et donc, le Bitcoin, lui, il a beaucoup plus d'intérêt en tant que véhicule d'épargne. On parle souvent, en parlant du Bitcoin, d'or numérique, à cause justement de ce que Philippe Erlin disait tout à l'heure à propos de la rareté intrinsèque des Bitcoins. Et donc, c'est beaucoup plus un véhicule d'investissement plutôt qu'une monnaie classique telle que de l'euro. Donc, les deux pourraient très, très bien cohabiter.
Et une position très ferme aussi de Paul Krugman, un prix Nobel d'économie en 2008, qui affirme, lui, que les crypto-monnaies sont surévaluées, qu'elles vont se casser la figure, n'hésitant pas à les comparer à la bulle immobilière américaine des années 2000, qui avait débouché, on s'en souvient, sur la crise financière de 2008. Damien,
Nous, aujourd'hui, on construit en fait de l'infrastructure technologique autour du service. Donc, nous, si vous voulez, on porte peu d'attention en fait à
tout ça.
Tout ça. Pourquoi ? Parce que nous, on a une position long terme. Vous en parliez tout à l'heure à juste titre. Si on regarde en fait l'évolution des crypto-monnaies à date, sur un train de 10 ans, c'est positif en fait. Et au contraire, aujourd'hui, tout ce qui se passe en France nous donne raison et partout dans le monde. Hein, 8 à 10% des Français aujourd'hui ont de la crypto.
Oui.
C'est un fait. Et ça fait qu'augmenter. Donc, aujourd'hui, on
Vous pensez que c'est un travail de longue haleine, un marathon? et qu'il faut résister à la tempête.
On est comme quand il y a eu Internet qui a débarqué, etc. On est exactement dans, dans la même phase aujourd'hui. Mmh. Et quand on regarde les courbes, d'ailleurs, quand Internet est arrivé, on est dans, exactement dans la même phase. Donc non, ça va se structurer, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Après, il ne faut pas...
Il y a un autre point aussi très intéressant, c'est jusqu'en 2020, vous aviez à peu près les mêmes messages qui étaient donnés par les gens des institutionnels des marchés financiers classiques. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, des gens comme Goldman Sachs, des gens comme JP Morgan ou BlackRock ont tous créé des produits autour des cryptos. Donc, eux, ils ont compris comment ça fonctionnait. Bon, bah, on peut juste attendre que Mme Lagarde ou M. Krugman réussissent à réaliser ça également.
Philippe Erlin.
Et Paul Krugman, c'est quelqu'un qui, depuis des années, défend la dépense publique, le déficit budgétaire, soi-disant pour soutenir l'activité. Et on voit aujourd'hui qu'on le paye, parce que c'est ça qui a provoqué la planche à billets des banques centrales, et maintenant l'inflation. Donc Paul Krugman, il fait partie des économistes, des autorités monétaires, qui sont responsables de l'inflation d'aujourd'hui. Mmh. Et l'inflation, ça veut dire que la monnaie se dévalue. Si vous avez 10% d'inflation, ça veut dire que l'euro perd 10% de sa valeur par rapport à un litre d'essence, par rapport à un paquet de pâtes. C'est ça que ça veut dire. Oui. La monnaie perd sa valeur. Donc Paul Krugman, non seulement il ne comprend pas le bitcoin, mais en plus il a détruit la monnaie, le dollar et les monnaies classiques. Donc il ferait bien de reprendre ses cours d'économie. Quoi.
Il est prix Nobel, on le rappelle, en 2008.
Bah, c'est pas une preuve,
mais il référence aussi au crypto crash. Il y en a eu un, là, on en a parlé, il y en aura sans doute d'autres. Enfin, je ne sais pas, comment est-ce que vous visualisez la courbe ascensionnelle de ces crypto-monnaies.
Mais il faut voir ça à long terme. Alors ceux qui sont traders, évidemment, ils peuvent éventuellement profiter, mais c'est quand même très risqué, je ne le conseille pas vraiment. Mais je dis, il faut acheter à long terme, et comme ça, vous êtes tranquille. Et vous serez gagnant si vous prenez le cours du Bitcoin sur 4 ans, ou mettez une échelle de 4 ans, une zone de 4 ans, sur n'importe quel moment du cours du Bitcoin, vous êtes gagnant. Voilà, ouais, donc acheter à long terme, et vous serez tranquille.
En gros, ceux qui les ont achetés au début, où il était à plus de 60 000 euros, il ne faut pas qu'ils s'affolent, ça va remonter.
Il ne faut pas qu'ils s'affolent, ils gardent, et on dépassera les 60 000 euros dans un an, ou deux, ou trois, ou quatre, ça c'est sûr.
Manuel Valente. Un chiffre. Sur la décennie 2010-2020, Le cours du Bitcoin a augmenté de 1 million de pourcents. 1 million de pourcents, en fait, vous n'avez aucun actif sur aucun marché financier qui a eu une telle progression sur la décennie ou même sur les années précédentes. Et a priori, bon, bah, y a pas de certitude sur le fait que ça va continuer sur cette lancée, mis à part le fait que la technologie, comme on le disait tout à l'heure, elle est extrêmement solide et que les applications continuent à être développées au quotidien.
Mmh. En 2035, on ne pourra plus acheter de voitures neuves à moteur thermique en Europe, uniquement des voitures électriques, mais on pourra continuer à rouler avec nos vieilles voitures à essence malgré tout. La transition vers le tout électrique, on y va, on est en marche. Qu'en sera-t-il de vos crypto-monnaies en 2035? Est-ce qu'on aura basculé complètement sur la crypto-monnaie et on continuera à rouler avec de l'euro, ou ce sera le contraire? Voilà, je vous pose la question parce que
si l'inflation se met à déraper complètement, peut-être que les gens préféreront utiliser le bitcoin plutôt que l'euro. Et justement, je disais tout à l'heure, on le voit dans pas mal de pays émergents. Les pays émergents où la monnaie explose, en Argentine, en Turquie, ils sont à 70% d'inflation. Donc comment vous voulez faire des prévisions économiques, comment vous voulez vivre en tant que ménage, en tant qu'entreprise, en tant que commerçant, quand vous avez 70% d'inflation? C'est un scénario qui n'est pas impossible dans la zone euro, parce qu'on a déjà fait la planche à billets pour le Covid. Et là, s'il y a des problèmes avec l'Italie, les taux d'emprunt de l'Italie sont en train de remonter, le secteur bancaire n'est pas très solide, on peut avoir une autre planche à billets de la BCE. Et à ce moment-là, on pourrait vraiment faire décoller l'inflation. Donc c'est une chose qu'on doit avoir à l'esprit. Quoi. Les Libanais, au Liban, toutes les banques ont fermé. Il y a une faillite générale, un effondrement de la livre libanaise. Et les banques ont fermé, les gens ont tout perdu. Voilà. Donc ceux qui ont du Bitcoin, eux, ils sont tranquilles. Quoi. Donc c'est une sécurité à prendre par rapport à l'inflation, par rapport au risque de crise bancaire. Ce qui s'est passé en 2008, ça peut revenir. Voilà, donc moi je dis, soyez prudents. Et le fait d'avoir du Bitcoin, c'est une façon d'arbitrer contre les décisions pas très rationnelles de Christine Lagarde ou de Krugman,
des gens qui sont quand même installés, qui sont posés, qui ont une analyse, voilà, qui sont...
Mais qui défendent aussi un intérêt. Ils défendent un système bancaire, ils défendent des États qui font du déficit. Parce que pourquoi il y a la planche à billets de la Banque Centrale? Parce que la France, notamment, fait beaucoup de déficits budgétaires qu'on est incapable d'équilibrer notre budget. Donc ça, on le paye un jour et on le paye en inflation. Ça, l'histoire le montre. Hein, c'est...
Mais au Salvador, par exemple, ils en ont fait leur monnaie. Ils en reviennent un peu.
Non, ils n'en reviennent pas. Mais il faut savoir que le Salvador, c'est un cas particulier. Ils n'avaient pas de monnaie, eux.
Oui.
Ils utilisaient le dollar. Donc, ils prémettent en plus l'utilisation du bitcoin. Et c'est une façon d'envoyer un signal dans le monde entier. Et puis, c'est une façon de créer une économie autour du bitcoin. Et ça marche. Alors, tout le monde ne se met pas au Bitcoin du jour au lendemain.
Oui.
Mais il y a déjà un gros succès et il y a un deuxième pays qui a rejoint, qui est la Centrafrique, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Et ben maintenant, le Bitcoin est accepté comme monnaie maintenant un peu partout dans le pays. Et donc voilà, ça marche. Mais il y a aussi des pays qui ne l'ont pas légalisé où c'est très utilisé. Par exemple, le Nigeria, parce que la monnaie, la Naira, est très instable. Il y a un contrôle des champs, c'est très compliqué. Et beaucoup de gens utilisent le Bitcoin comme monnaie de transaction, là, pour le coup. Parce que même si c'est volatile, ça a quand même plus de valeur que la Naira, quoi.
Il faut regarder aussi le taux de bancarisation, pour le coup. On parlait du Salvador, notamment, mais quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est avant Bitcoin, pour le coup, très peu d'habitants étaient bancarisés, etc. Désormais, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a un pourcentage important de la population qui est désormais bancarisé grâce aux wallets qui a été mis en place, etc. Donc, faut pas non plus dramatiser et dire que tout est mauvais. Au contraire, ça a beaucoup de points positifs, comme vous l'évoquiez.
Après, se pose la question effectivement de la période, de la temporalité dont vous parlez, parce que aujourd'hui, enfin, on va se projeter un peu, mais je parlais de 2035 pour les voitures, mais il y a un climat quand même d'anxiété qui est assez fort, avec un pouvoir d'achat qui baisse, on a un conflit en Ukraine qui s'enlise. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont pas extrêmement excitants, exaltants. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que au-delà des jeunes adultes dont on a parlé, il y a encore un gros travail. Enfin, il va falloir être très patient pour que toute la population s'y mette, en tout cas commence à y penser en disant « je vais investir et acheter des crypto-monnaies ».
Il y a plein de choses qui sont en train de se faire à l'heure actuelle. La première, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des entreprises financières classiques qui aujourd'hui proposent des produits dérivés sur les crypto-monnaies, notamment dans les bourses, à la bourse de New York notamment, ça arrive. Vous avez des moyens de paiement qui sont utilisés au quotidien, on le voit ici avec l'Easy notamment, qui se développent. On peut penser par exemple à tout ce qui est la remittance, c'est-à-dire les gens qui envoient de l'argent à leur pays, les gens immigrés dans les pays européens ou américains qui envoient
de l'argent
chez eux.
Les transferts bancaires,
Et qui coûtent du coup beaucoup moins cher qu'avec des entreprises comme Western Union ou MoneyGram. On peut penser enfin à des choses si on regarde sur le long terme. Vous avez des gens qui commencent à s'intéresser au fait que les bitcoins et les crypto-monnaies pourraient être utilisées comme réserves dans les banques centrales. Comme, de la même façon qu'aujourd'hui, la Banque de France a des réserves en or, dans ses coffres, elle pourrait très bien avoir également des réserves en bitcoin qui seraient la sécurité et la garantie sur le long terme de la valeur de l'euro, par exemple.
Et pour vous, avec l'application Leasy, le prochain step, c'est quoi ? C'est de le développer
Aujourd'hui, c'est de fédérer un réseau d'acceptation important. Donc, notre objectif à court terme, c'est de fédérer à peu près un réseau de 10 000 commerçants d'ici fin d'année.
En France, à Paris, dans les grandes villes.
Non, exactement.
Vous avez déjà des cibles dans certaines grandes villes françaises
Tout à fait. En fait, on a déjà en pré-commercialisation plus de 1500 points de vente déjà signés, validés. Et là, on est en train de signer des grandes enseignes. Enfin, on sent qu'il y a une vraie appétence, c'est ce que je disais tout à l'heure autour de...
Dit ça pour nos auditeurs qui nous écoutent en région. Est la prochaine région qui sera avec
ça
la...
Ça arrive.
Et
on n'a pas que des grandes villes pour le coup, on a aussi des villes intermédiaires.
C'est intéressant, vous pouvez nous en donner une ce soir sur Europe 1 ou c'est trop tôt ?
Non,
vous
ne
pourrez pas.
Non, pas tout de suite.
Et voilà, très bien, écoutez, on va attendre. Alors je vous remercie beaucoup tous. Prochaine... Pour conclure, Philippe, le Bitcoin, si vous deviez le résumer en une phrase.
Allez-y, parce qu'avec l'inflation, votre épargne va être ratiboisée. Donc posez-vous les bonnes questions maintenant, rapidement. En plus, quand le Bitcoin a un cours un peu massacré en ce moment à 30 000 dollars, c'est le moment de rentrer. Il ne faut pas rentrer quand il est à 60 000. Là, il y a un peu un contexte de crise. Donc allez-y, rentrez, c'est le moment.
Manuel Valente, pour vous, le conseil le banquier.
Nous, chez CoinHouse, le but, c'est de démocratiser l'accès à ce marché. À dire vraiment, ça peut être compliqué technologiquement, mais nous, on sera capable de vous aider et à cacher toute cette complexité pour que ce soit aussi facile que de dire, voilà, j'achète un produit financier classique comme chez une banque.
Oui. Et vous avez combien de clients aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a plus de 400 000 clients.
400 000 dans le monde entier ? En Europe, je veux dire, en toute l'Europe. Voilà, c'est ça. Les pays où vous en avez le plus ?
En France.
En France, d'accord. Et le deuxième pays après ?
Belgique, Suisse.
D'accord, très bien. Merci pour ce podium. Merci Manuel Valente, Damien Patureau et Philippe Erlin. Les crypto-monnaies, voilà, vous êtes désormais incollables, tout comme Lionel Rosso sur le sport, le foot, Zidane, tout ça, et plus encore ce soir.
Et la crypto-monnaie aussi, puis vous savez que Messi, notamment, est payé en grande partie au Paris Saint-Germain en crypto-monnaie. C'est passionnant, c'est un sujet passionnant, on en a parlé dans Europe 1 Sport.
Merci Lionel pour cette info.
Avec grand plaisir. Écoutez, vous êtes la bienvenue à partir de 20h, ma chère Céline et toutes les auditrices et toutes les auditeurs. qui nous rejoindront pour notamment revenir sur le match de l'équipe de France hier avec Mbappé blessé mais qui sauve l'équipe de France, match nul contre l'Autriche. Et puis on parlera aussi de Zinedine Zidane, peut-être au Paris Saint-Germain.
Merci Lionel, à tout de suite.